nous l'atteindrons si notre dialogue est franc, s'il est empreint d'une mutuelle compréhension, s'il est dominé par le constant souci de tenir compte des réalités et des possibilités actuelles. Vous êtes ici, messieurs les Congolais, pour nous parler. Nous vous le demandons du fond du cœur. Parlez sans crainte. Parlez en ne vous inspirant que de ce qui vous paraît devoir être l'intérêt de tout le peuple congolais. Parlez sans détour. Parlez sans amertume. Je vous demande à tous, messieurs, d'être animés d'une même volonté d'aboutir à des solutions constructives. Cet objectif peut être atteint, puisqu'au départ, nous sommes tous d'accord sur l'essentiel, l'indépendance du Congo.
Si elle va dans le bon sens, cette organisation n'a rien d'une promenade de santé. Oh, c'est bien simple, tout reste à faire. Alors qu'il avait été arrêté à la suite des émeutes de janvier 1959, Joseph Kasavubu, libéré, est bien présent à la tête de l'Abaco. Daniel Kanza et Edmond Zenzan Landou, ses plus fidèles lieutenants, l'accompagnent. Mais le parti majoritaire à Léopoldville n'est pas le seul à faire entendre sa voix autour de la table de négociation. La CONACAT est aussi là, avec son plus éminent représentant, Moïse Tshombe. On retrouve enfin les sensibilités issues du mouvement national congolais. Libéré de prison lui aussi, Patrice Lumumba fait peser de toute sa présence et son aura le cours des événements. Il n'est pas seul. L'a suivi un journaliste dont il est proche et qui va bientôt fracasser à coups de botte les portes de l'histoire, Joseph Mobutu. Voilà un mois que cette grande assemblée, aux volontés diverses, échange afin de fixer les modalités de l'indépendance. Il est temps enfin de clôturer. Ce matin, la presse a été conviée pour l'événement. Les contours de l'accord sont fixés. Pleine à craquer, la salle est le lieu d'une incroyable effervescence. Dans l'assistance, un homme se lève. Il s'agit de Patrice Lumumba. Sa parole est attendue. Ses mots résonnent dans l'espace diplomatique avec une force incroyable. Ils portent en eux l'espoir du lendemain. À ce stade, pour l'un des pays les plus riches d'Afrique, le champ des possibles semble infini.
Rien ne pourra plus se décider, aussi bien en Belgique qu'au Congo, sans notre assentiment. Ce résultat magnifique, obtenu par des négociations pacifiques et amicales, nous réjouissent profondément. La Belgique a compris les prix que nous attachons à notre liberté et à notre dignité humaine.
Le sénateur Henri Rollin, chevronné politique, est chargé de prendre la parole à la suite de Lumumba. L'homme est stressé, ses mains sont moites. Sa moustache fine et grisonnante se perle de sueur. La fatigue engendrée par cet instant diplomatique sans précédent dans l'histoire des deux pays a été intense. Cela se ressent durant toute sa prise de parole.
C'est une grande et redoutable aventure que celle qui vous attend. Et vous n'ignorez pas que dans beaucoup de milieux, l'on aurait préféré, et je serais enclin de dire personnellement, que si nous avions pu, en toute liberté, examiner ce problème, nous aurions souhaité, dans votre intérêt, qu'il y ait des étapes successives afin que, graduellement, avec le maximum de sûreté, vous puissiez vous familiariser avec les responsabilités en les assumant partiellement tous les ans davantage. Vous nous avez dit que c'était impossible et nous avons reconnu qu'il en était ainsi. Il n'était pas possible, étant donné le courant de libération qui se répand en Afrique, il n'était pas possible, et bien que jusqu'ici, vous ayez dans une bien moindre mesure que d'autres territoires été associés à votre administration, il n'était pas possible de vous refuser plus longtemps cette promotion majeure de devenir un État pleinement indépendant, maître de ses destinées.
La date officielle de l'indépendance est fixée au 30 juin 1960. Il n'empêche, ce discours intrigue. La Belgique avertit-elle les Congolais par souci de sincère bienveillance? Ou est-ce le poison du doute, de la menace voilée qu'on retrouve ici? Difficile à dire. L'année 59, après les émeutes de Léopoldville et la porte ouverte de Baudouin dans son allocution du 13 janvier, a été marquée par de nombreux moments. Les partis politiques nationaux ont été autorisés. Peu de temps après, des élections générales ont été organisées dans tout le pays. Les Congolais doivent choisir entre l'Abaco, qui porte la vision d'une scission du territoire, et celle portée par Lumumba, qui souhaite diriger une nation unie. En parallèle, une troisième voie gagne du terrain. Elle est portée par Moïse Tshombe, porte-parole de la province du Katanga. Il a pleinement conscience de son poids dans le devenir du pays, tant la région qu'il représente est riche, notamment en sous-sol. Son objectif est clair, passer un accord avec l'union minière du Haut-Katanga pour gagner en stature et en puissance. Cette pluralité d'opinions, propre au bon fonctionnement d'une démocratie, s'affronte plusieurs fois avec violence au Congo. En octobre, des gendarmes tirent sur des partisans de Lumumba, réunis dans le cadre d'une manifestation. Bilan, une trentaine de morts et des centaines de blessés. La table ronde du début d'année 1960 ne s'ouvre pas forcément sous les meilleurs auspices. Elle tranche pourtant les principales questions politiques sur le devenir de la nation congolaise. Les dates des premières élections législatives sont fixées. Cela est moins connu, mais durant trois semaines, entre le 26 avril et le 16 mai, une nouvelle table ronde est organisée au sujet des thématiques sociales, économiques et financières. Toutes ces étapes, souvent ponctuées de tensions, permettent l'organisation des élections législatives au mois de mai. La formation de la première chambre des députés du pays en découle. Le Parlement est à l'image des clivages nés des précédentes élections. L'Abaco de Kasavubu connaît même une improbable scission. Cela provoque la formation d'un gouvernement pluriel, où Kasavubu accède à la fonction présidentielle avec son opposant, Patrice Lumumba, comme Premier ministre. Les deux hommes forts du pays vont donc se retrouver en première ligne pour un moment qui va faire date, la cérémonie du 30 juin 1960, en présence de Baudouin Ier. Cette journée marque l'indépendance officielle du Congo. Juin 1960, Léopoldville. Le roi Baudouin Ier pose le pied sur la terre congolaise, accompagné de sa délégation. Sur le tarmac, l'effervescence est à son comble. Et pour cause, demain, on célèbre enfin l'indépendance. Conviés aux célébrations, Baudouin et le gouvernement n'ont pas hésité à répondre présent. Question d'image, évidemment. Au cœur de ces journées festives, un moment bien particulier est invisibilisé. La présentation pour la première fois du drapeau congolais en présence du monarque. Elle a lieu devant la troupe. Toutes les autres composantes de la société sont exclues de cette démonstration de force, pleine de symbolisme. La force publique devient dans le même temps l'armée nationale congolaise. Elle découvre ses nouvelles couleurs, abandonnant le drapeau belge. Un moment charnière. Pourtant, aucun officiel, pas même le gouverneur général, n'est convié à y assister. Pourquoi ? Ce choix étonnant revient certainement au commandant en chef de la force publique, le général Janssens, peut-être trop échaudé par le symbolisme de cette passation de couleurs. A-t-il craint une réaction disproportionnée de la part des locaux ? Quoi qu'il en soit, le Congo peut enfin prendre son envol après une journée rythmée par de nombreux moments forts. À 10h, c'est un Tédéum qui est chanté dans une église de la cité indigène de Léopoldville. Pour la toute première fois, Baudouin est au premier rang. Le cortège prend ensuite le chemin de l'immense palais des nations. Le peuple s'est massé. Les prises de parole s'enchaînent. Celle du roi, qui passe ensuite la main au tout nouveau président. Et puis vient le tour du premier ministre Lumumba, qui jette un froid on ne peut plus vif sur les représentants belges, Baudouin compris. Son discours, resté célèbre, n'appelle pas vraiment à l'apaisement.
Combattants de l'indépendance, aujourd'hui victorieux, je vous salue au nom du gouvernement congolais. À vous tous, mes amis, qui avez lutté sans relâche à nos côtés, je vous demande de faire de ce 30 juillet 1960 une date illustre que vous garderez ineffaçablement gravée dans vos cœurs, une date dont vous enseignerez avec fierté la signification à vos enfants, pour que ceux-ci, à leur tour, fassent connaître à leurs fils et à leurs petits-fils l'histoire glorieuse de notre lutte pour la liberté.
Alors qu'au dehors, la liesse est vive, la délégation de l'ancien colon s'éclipse. La joie va être de courte durée. C'est peu dire que la catastrophe qui guette les Congolais va bouleverser d'innombrables destinées et remettre au cœur du jeu douleur et souffrance. Il ne faut pas attendre longtemps pour que l'enfer reprenne toute sa place. L'instabilité de la situation politique congolaise provoque de nombreux heurts presque immédiatement. Tout début juillet, c'est l'ancienne force publique commandée par Mobutu qui se mutine. La communauté blanche, principalement belge, se retrouve pointée du doigt, accusée de complot contre la nouvelle organisation étatique en place. Les mouvements qui souhaitent le délitement de l'unité nationale en profitent. Le 11 juillet, Moïse Tshombe est à la manœuvre pour déclarer l'indépendance du Katanga. Il est suivi de près par le Sud Kasaï, au mois d'août. Le Katanga se dote de sa propre police et même d'une monnaie. Pour le gouvernement central, c'est la catastrophe économique. Ces deux provinces sont celles qui regorgent de richesses minières. Entre-temps, c'est au niveau international qu'on s'inquiète. Une résolution de l'ONU est votée le 14 juillet 1960. Le Congo est indépendant depuis seulement 15 jours. La situation est loin de se régler. Si le Premier ministre Lumumba demande l'envoi des casques bleus, l'autorité nouvellement établie au Katanga refuse l'aide onusienne. Et pour cause, la Belgique est derrière Moïse Tshombe. L'ancien colon voit là une réelle opportunité de garder une mainmise sur une partie de ses anciens intérêts économiques. Le 12 août, elle signe un accord séparé avec le Katanga, reconnaissant de facto l'indépendance de la province. Hélas, les choses vont s'accélérer davantage. Le Premier ministre n'a qu'un souhait, reprendre le contrôle des parties du territoire qui ont fait scission. Mais cette fois, l'ONU intervient pour imposer des mesures restrictives et empêcher les troupes d'entrer au Katanga. Il n'y aura pas de lutte armée pour faire tomber Moïse Tshombe, du moins pas pour le moment. Du côté du Sud Kasaï, les soldats du régime massacrent des innocents. La cohue est totale. Lors d'une interview, le Premier ministre Moïse Tshombe exprime de façon très claire son point de vue par rapport à l'ONU.
Vous comptez vous opposer à l'arrivée éventuelle de ces troupes des Nations Unies ?
Je vous ai déjà répété à plusieurs reprises que les troupes des Nations Unies viennent ici pour apaiser. Alors il y a le calme. Vous savez que par le fait même de l'annonce des troupes des Nations Unies, il y a déjà un panique ici au Katanga. Donc si ces messieurs veulent venir ici, c'est pour tout simplement, n'est-ce pas, semer un panique, semer le désordre, comme il y a un peu partout, et je mettrai les Nations Unies devant ses responsabilités.
Vous craignez des désordres si les troupes des Nations Unies arrivent ce samedi?
Sûrement, il y aura des désordres partout.
Début septembre, l'instabilité est à son comble, alors que le président Kasavubu et Lumumba se déchirent. Cela va profiter à un homme plus que tous les autres, un certain Joseph Mobutu. À la tête de ses hommes, il renverse sans ménagement le gouvernement central. Les rêves de liberté s'éloignent considérablement. Il est une des parties prenantes d'une affaire aussi complexe que terrible. L'assassinat de Patrice Lumumba. Pire, le pouvoir démocratique, tué dans l'œuf, va rester entre ses seules mains pendant des dizaines d'années. ...du pays, afin de le laisser prendre son envol. Mais la démocratie s'est crachée avant même d'avoir pu exprimer son plein potentiel. À qui profite le crime ? À ceux sur place qui poussent à la scission du pays, comme Moïse Tshombe ou Katanga. Mobutu va devenir la figure centrale de cette prise de pouvoir née d'un coup d'État, c'est indéniable. Mais il n'est pas le seul. La Belgique a tout à gagner à signer un accord séparé avec les provinces minières de son ancienne colonie. Elle n'hésite pas à envoyer des troupes armées pour protéger ses intérêts, entraînant par là même une gronde sociale sans précédent. Elle va secouer en profondeur le pays au cœur de l'hiver 60-61. La sécurité de la communauté blanche installée au Congo, elle, est considérablement altérée. Il faudra mettre sur pied les opérations Dragon Rouge et Dragon Noir pour permettre le retrait de bien des civils belges et européens piégés sur place. D'un fil d'Ariane, l'histoire se déroule, implacable. Elle est parfois bien cruelle. Les aspirations de liberté du poumon de l'Afrique se transformant en quelques semaines en véritable cauchemar pour bien des pans de la population. Pour ces hommes et ces femmes, le plus dur commence. Il va leur falloir apprendre à vivre sous le joug du système Mobutu, ce journaliste devenu dictateur. Au fond, l'échec de l'indépendance n'est pas la responsabilité d'un des acteurs dont nous avons parlé. C'est une convergence de facteurs structurels et politiques qui en est à l'origine.